Déjà, le Seigneur a agi, a parlé au travers des chants, au travers des louanges, au travers de ce que notre frère nous a apporté également. Mais nous croyons que notre Dieu va continuer d'agir. Et vous savez que nous sommes toujours dans cette série de Néhémie, Levons-nous et bâtissons. Alors, ce matin, je ne vais pas continuer avec le chapitre 7. Je vous laisse le soin de regarder le chapitre 7 parce que vous verrez que dans ce chapitre 7, c'est beaucoup de noms qui reviennent. C'est le dénombrement du peuple. Donc, il y a des choses intéressantes à voir, mais ce matin, je préfère qu'on aille plutôt dans les choses qui vont nous toucher de près. Et on va parler du secret de la force intérieure. On arrive à un moment donné, dans ce chapitre 8 de Néhémie, on arrive à un moment donné où la muraille est construite. On peut lire quand même le chapitre 6 et le verset 15 pour voir où c'est qu'ils en sont. Néhémie chapitre 6 et le verset 15. Regardez ce qu'il est dit. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Amen. Un peuple qui a été conduit parce qu'il y a eu un leader qui a pris le temps de prier, qui a pris le temps de chercher la volonté de Dieu, qui a pris le temps aussi de regarder les circonstances pour voir si c'était vraiment ce que Dieu voulait pour sa vie. Le roi a ouvert les portes, il lui a donné les lettres qu'il fallait. Ce leader Néhémie est parti dans son pays. Il a commencé à partager cette vision pour que la muraille soit rebâtie. Le travail s'est fait dans l'unité, mais le travail ne s'est pas fait avec facilité puisqu'il y avait un ennemi aussi qui était là et qui voulait empêcher. Et ça nous parle de cet ennemi que nous connaissons dans nos vies aussi, qui est là pour nous empêcher d'avancer avec le Seigneur, pour nous empêcher de nous joindre au peuple de Dieu. Et il y a toutes sortes de stratégies, on les a vues en détail les semaines précédentes, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais on arrive à ce moment donné où le peuple, il est dans la ville de Jérusalem, il y a une haute muraille, il y a une protection physique. Et pourtant, il y a un élan du peuple qui va vers son Seigneur. Regardez dans Néhémie chapitre 8, verset 1er. Il y a un élément qui manque à ce peuple et dont il a conscience de son besoin et que l'on voit dans ce chapitre 8 de Néhémie. Voici ce que nous lisons au verset 1er. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija, Maaseja, et à sa gauche, Pedaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Ça vous donne un peu l'aperçu du chapitre 7, hein? Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué bannit Sherebia, Jamin, Akub, Shabbetai, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabdab, Hanan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Pourquoi? Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Voilà le secret de la force intérieure. Nous le trouvons dans ce passage. Bien sûr, il y a ce verset qui est un petit peu l'élément central du chapitre 8 de Néhémie. La joie de l'Éternel sera votre force. Et je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de méditer sur ça, mais il y a de grandes bénédictions pour la personne qui choisit de réfléchir à ça. On va y venir. Mais la joie de l'Éternel qui devient la force, elle n'est pas arrivée toute seule, cette joie de l'Éternel. Elle est arrivée à un moment particulier. Quand la parole de Dieu, la loi de Dieu, à ce moment-là, c'était la Torah, les 5 premiers livres, a été mise en avant, a été l'élément central. Et plaise à Dieu que dans chacun des moments où nous nous assemblons, ce soit ça qui se passe. Ce soit la parole de Dieu qui soit l'élément central. Bien sûr que on s'efforce que ça soit cela. Mais je voudrais aller plus loin encore ce matin. Est-ce que on doit se contenter que la parole de Dieu soit l'élément central de nos réunions? Ou est-ce que la parole de Dieu doit être l'élément central de nos vies? C'est-à-dire, oui, le dimanche matin, à 10h30 ou 10h45, on commence à la parole de Dieu, oui, d'accord? Mais lundi matin, à 7h quand il faut se lever pour aller au boulot, ou à 6h pour ceux qui se lèvent plus tôt, ou 5h, ou 4h des fois, ça dépend. Mais peu importe, est-ce que la parole de Dieu est l'élément central? On voit, il y a toute une disposition qui est faite, et c'est particulier ce chapitre 8, parce que autant dans les premiers chapitres on parle beaucoup de Néhémie, c'est Néhémie qui raconte un petit peu ses mémoires, mais là on voit un Néhémie qui a accompli son travail de reconstruction de la muraille, mais qui sait qu'il y a un travail qui est encore plus important, c'est celui de la reconstruction intérieure de ce peuple. Et cette reconstruction intérieure, cette force intérieure qu'il va pouvoir communiquer au peuple, il sait qu'elle va venir que d'un endroit, c'est de la parole de Dieu. Ça peut pas venir d'ailleurs. On a beau avoir accompli des exploits, en 52 jours ils ont reconstruit une muraille, pourtant il y avait des ennemis qui étaient là, qui les ont empêchés de toutes sortes de manières. Là, dans le cœur de ce peuple, il y a une soif, il y a une faim d'entendre la parole de Dieu. Et vous avez remarqué que Esdras, c'est à ce moment-là qu'il arrive. Néhémie, c'était un homme d'action, un homme qui était le gouverneur, qui avait toutes sortes de facilités par rapport à la gouvernance, pour l'organisation, etc. Mais quand il s'agissait d'annoncer la parole de Dieu, Néhémie, il n'a pas dit « Attendez, c'est moi le gouverneur, je vais vous apprendre comment on fait ». Il a dit « Voilà, maintenant Dieu a envoyé un homme, Esdras, et c'est lui qui est un homme d'instruction, c'est lui qui va nous instruire dans les voies du Seigneur. » Et c'est déjà une preuve d'humilité de la part de Néhémie d'agir comme ça, mais c'est une preuve de bon sens et de sagesse aussi que d'agir de cette manière. Esdras, il aurait pu lui aussi venir en imposant les choses. Vous savez qu'Esdras, il n'est pas venu les mains dans les poches, retourné depuis Babylone jusqu'à Jérusalem. C'était pas les mains dans les poches qu'il est venu. Il est venu avec un ordre du roi de l'époque. L'ordre du roi, c'était que les gens, ils obéissent à la loi que lui, il allait apprendre. Et que celui qui ne se soumettait pas, il risquait d'être puni à mort, entre autres. C'était quand même assez costaud, hein. Vous imaginez si Monsieur Macron, il ordonnait qu'on obéisse à la parole de Dieu, sinon on est puni à mort. Ça paraît fou, hein. En tout cas, c'est ce qui était le cas. Esdras, dans ses tiroirs, il avait la lettre du roi qui lui demandait de faire ce travail-là. Il n'est pas arrivé en disant « Voilà, maintenant vous allez être obligé d'obéir à la parole de Dieu. » Parce qu'il sait très bien que si on dit les choses comme ça aux gens, ben ça tient pas du tout. Si vous obéissez à la parole de Dieu parce que le pasteur vous dit d'obéir, ça ne marche pas. Si vous obéissez à la parole de Dieu parce que vous avez faim et vous avez soif de cette parole, parce que vous savez qu'elle est bonne pour vous, parce que vous vous sentez faible et vous avez besoin de cette force intérieure, alors là, vous êtes dans les bonnes dispositions pour pouvoir la recevoir. Et on voit déjà que cette parole, c'est une parole qui assemble. Si nous voulons être forts d'un point de vue de notre être intérieur et résister aux circonstances, même si on pense avoir tout ce qu'il faut d'un point de vue matériel, même si on a une haute muraille, alors aujourd'hui c'est pas les murailles, mais on a une belle maison, on a une belle famille, on a tout ce qu'il faut, un bon travail, Mais peut-être qu'on a, il nous manque cet aspect que la parole est au centre de notre vie. Alors, on a besoin de la laisser faire cette œuvre en nous. Une parole qui assemble. Vous voyez déjà que le peuple s'est rassemblé. C'est l'élan, il est venu de lui-même, comme un seul homme. Et ce qui est particulier, c'est qu'il était composé d'hommes, de femmes, et même de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Face à la parole de Dieu, les différences, elles tombent. Il n'y a pas de riche ou il n'y a pas de pauvre face à la parole de Dieu. Il n'y a que des hommes qui sont pécheurs, des hommes qui sont perdus et qui ont besoin d'être sauvés. Et la parole de Dieu, elle est là justement pour faire cette œuvre de purification, cette œuvre où toutes nos souillures sont enlevées et cette œuvre de restauration et de guérison. Esdras, pendant toutes ces années, quand il a vu arriver Néhémie, il aurait pu se dire « Bon, maintenant qu'il y a le chef qui est là et qui est de mon côté, on va pouvoir instruire les uns et les autres. » Mais Esdras, il a préféré patienter, attendre et attendre, former peut-être des lévites, former des personnes qui vont être capables d'expliquer la parole, pour que au bon moment, au moment où le peuple demandera cette parole, il pourra alors à ce moment-là l'enseigner. Parce qu'il sait que ça sert à rien avant. Si on essaye d'enseigner les gens en faisant du forcing et du lavage de cerveau, ça ne marche pas. Ça sert à rien. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, mais pour le cœur qui est ouvert, le cœur qui choisit de se mettre à la disposition. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, il y a eu tout ce travail. Et même quand il y a eu le travail de Néhémie, là c'est le bon Néhémie, avec la muraille, Esdras, il a patienté. Il a vu que c'était plus important qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait la paix dans la contrée, plutôt que de commencer à annoncer la parole dans des mauvaises circonstances. Est-ce qu'il y a des choses qui nous assemblent, frères et sœurs ? On pourrait dire oui, il y en a quand même beaucoup. Des choses qui concernent la société. On défend la famille, on défend le mariage. On défend le mariage entre un homme et une femme, on est obligé de le préciser aujourd'hui. On défend le fait que l'avortement c'est une mauvaise chose. On défend toutes sortes de thèmes de société avec lesquels on est d'accord. Mais est-ce que c'est ça qui nous unit ? Est-ce que c'est ça qui nous assemble ? Un petit peu, mais c'est pas le cœur du problème. Ce qui nous assemble, ce qui nous unit particulièrement, c'est la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui nous unit. On est d'accord ? Et la foi en Jésus-Christ, elle vient d'où ? Elle vient, comme le dit le verset, de ce que l'on entend ou de ce que l'on comprend de la parole de Christ. Donc voilà pourquoi c'est important de mettre la parole de Christ au centre de notre vie, parce que la foi vient de la parole. Et si nous voulons grandir dans la foi, si nous voulons être forts, cette force intérieure qui est capable de résister aux circonstances, bien sûr que c'est la foi, mais c'est la foi en la parole de Dieu. Et on voit dans la Bible toutes sortes de contre-exemples des hommes qui se sont rassemblés, mais qui se sont rassemblés pour de mauvaises raisons. Et on voit encore aujourd'hui, hein, c'est pas que dans la Bible, mais on le voit même aujourd'hui, des gens qui se rassemblent pour de mauvaises raisons. Les sacrificateurs, les pharisiens, à un moment donné, ils se sont assemblés pour décider du sort qu'ils allaient réserver à Jésus. Est-ce que c'était un bon rassemblement ? Pas terrible, hein ? Bien sûr, c'était dans le plan, la volonté de Dieu, mais Dieu s'est servi des failles, du péché de ces hommes-là, et l'a transformé en une bénédiction pour nous, parce que ça s'est transformé pour notre salut. Mais bien sûr que le rassemblement en lui-même était mauvais. Les Corinthiens, Paul leur dit, mais quand vous vous rassemblez, c'est pas pour devenir meilleur, c'est pour devenir pire. Il y a des divisions entre eux, il y a des jalousies, c'était pendant des repas, il y en a qui mangeaient à satiété, et puis à côté, il y en a un qui mourait de faim. Voilà les rassemblements qu'ils avaient. C'était pas des bonnes choses. Jérémie parle à une assemblée et leur dit, vous êtes une assemblée de moqueurs. Des gens qui se rassemblent pour se moquer ou critiquer. Et on n'est pas obligé de regarder très loin dans la Bible et en arrière, mais on est dans une époque où nous, en tant que Français connus par le monde, un des traits de caractère, c'est ceux qui critiquent, ceux qui râlent. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Parce que c'est moi qui l'invente ce matin, non ? Malheureusement, c'est la vérité. Mais on n'est pas obligé, nous, en tant que hommes et femmes de foi, qui ont compris que la force intérieure, elle va venir de la foi que l'on va mettre dans la parole de Dieu, on n'est pas obligé d'agir de cette manière-là et de nous assembler pour toutes ces mauvaises choses. Et même dans les actes, il est dit un truc encore plus grave, je pense, c'est que les personnes qui se sont rassemblées, ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. À un moment donné, acte 19, les gens, ils entendaient des cris, des désordres, il y avait toute une foule, et il est dit qu'ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Ça, c'est encore pire, je pense. Quand on fait partie d'un groupe et qu'on ne sait même pas pourquoi on est rassemblé. En tout cas, ça, c'est les mauvaises choses pour lesquelles on peut s'assembler. Mais le Seigneur nous invite à avoir cette certitude dans le cœur, à savoir pourquoi est-ce qu'on est assemblé ce matin. On est assemblé autour du Seigneur Jésus, assemblé autour de sa parole, pour que cette parole s'inscrive dans notre cœur, non seulement ce matin, mais tous les jours de notre vie. On est assemblé pour devenir justement meilleur. On ne veut pas devenir pire. Si je sors du culte pire que ce que je suis rentré, alors c'est que je suis passé à côté de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est pour moi une bénédiction. On n'est pas venu pour se moquer. Okay, on n'est pas rassemblé pour critiquer ou pour dire des paroles négatives, mais on est venu pour apprendre à bénir et bénir encore davantage. On n'est pas venu pour comploter sur qui que ce soit, on est venu pour apprendre à aimer, à être rempli de compassion. Et ça, c'est l'œuvre de la parole de Dieu dans notre vie. Après avoir été enfin en sécurité derrière leurs murailles, tout le peuple a cet élan, cette faim et cette soif. Hommes et femmes, vieillards et enfants, riches, pauvres, peu importe, tout ça, ça disparaît. Mais c'est des hommes qui viennent en toute simplicité devant leur Seigneur. Amos a dit un jour, de la part du Seigneur, il a dit cette parole, « Voici les jours viennent où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Est-ce que nous ne voulons pas prier dans ce sens-là? Ça vous est déjà arrivé d'ailleurs, tiens, de prier de cette manière? Moi, ça m'est arrivé. J'ai lu ce verset, j'ai dit, Seigneur, moi je veux que tu mettes dans mon cœur la faim et la soif de ta parole. Parce que la lire pour la lire, c'est bien, mais ça fait rien, ça produit rien. Mais quand on a faim et quand on a soif, quand on a un désir fort dans notre cœur, alors on est capable de faire des efforts, alors on est capable de prendre du temps, alors on est capable d'avancer avec cette parole entre les mains et de savoir que le Seigneur va nous conduire et nous diriger. Qu'est-ce qu'il en est pour nous? Est-ce que nous avons faim? Est-ce que nous avons soif de la parole de Dieu? En tout cas, c'est ce qu'il faut qu'il se passe dans notre cœur, si nous voulons qu'elle produise son effet. Mais il faut aussi prêter attention à la parole. Dans le verset 3, il est bien précisé que, alors qu'Ezra s'était en train de lire depuis le matin jusqu'au milieu du jour, donc vous imaginez que ça a duré un petit peu, et toutes les personnes qui étaient présentes étaient là, tout le peuple, il est dit, fut attentif à la lecture du livre de la loi. Ça change carrément les choses quand l'on est attentif à la lecture, attentif à la parole. Vous savez, Jésus l'a bien expliqué au travers de la parabole du semeur, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais la façon dont on écoute, ça va déterminer l'action et la puissance que cette parole va avoir dans mon cœur. Si j'écoute en laissant rentrer dans une oreille et laissant ressortir dans l'autre, ben ça va rien produire. Et des fois, on pense que les choses vont se faire par magie comme ça. On entend la parole, on n'y prête pas attention, mais on pense qu'elle va nous faire du bien. Et après, on ressort du culte, on est frustré parce qu'on n'a rien reçu. Oui, mais on n'a rien reçu. Est-ce qu'on a écouté avec attention? La question se pose. Mais comme ils ont été attentifs, ces personnes, à la parole, alors elle a commencé à agir efficacement. Est-ce que nous prenons le temps d'écouter le Seigneur? Je ne parle pas du dimanche matin, ça c'est assez facile, mais le reste du temps. Est-ce que nous prenons vraiment le temps? Est-ce que nous disons, oui, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, alléluia! Et puis le lundi matin, allez, non, j'ai pas le temps, oh, c'est trop difficile, la parole, allez, il faut que je prépare les enfants, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse à manger, il faut que j'aille au travail, il faut que ceci, il faut que cela, j'ai pas le temps de lire la parole. Est-ce que ça s'est déjà présenté, ces situations? Est-ce que c'est des choses qui sont très loin, qui vous passent au-dessus? Ou alors ce sont des fois peut-être les éléments quotidiens de nos vies, et on a besoin d'être attentif. Oui, bien sûr, le Seigneur parle le dimanche matin, mais le Seigneur parle tous les jours. Imaginez que vous ayez une banque qui crédite votre compte chaque matin avec 86 000 euros. Chaque matin, vous avez 86 000 euros sur le compte. Le problème de cette banque, c'est que ces 86 000 euros, ils sont valables que pour une journée. Et quand la nuit arrive, Eh bien, le compte est remis à zéro. Donc, si vous avez dépensé que 100 euros ou 1000 euros, eh bien, les 85 000 et quelques qui restent, eh bien, vont être remis à zéro. Et le lendemain, c'est à nouveau une autre somme, 86 000. Ça se cumule pas, si vous voulez. C'est pas une manque comme d'habitude. Qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là? On dépenserait tout, tous les jours. Est-ce que c'est comme ça qu'on réagirait? Normalement, hein? Mais vous savez, laissez-moi vous dire que on a cette banque. Cette banque, elle s'appelle la banque du temps. Tous les jours, le Seigneur nous donne 86 400 secondes. 86 400 secondes tous les jours. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous dépensons tout pour les choses qui en valent la peine? Ou est-ce que nous disons, bon, on verra plus tard, et on gaspille, et on laisse des choses, du temps se passer, des minutes, où on perd des minutes à faire des choses qui ne servent à rien et qui finalement ne rapportent rien? Et le résultat, c'est qu'on ne peut pas retourner en arrière. Le temps, ça file. Le temps, ça se dilapide comme ça. Alors que le Seigneur nous invite à prendre justement le temps d'écouter, prendre le temps de prier, prendre le temps des bonnes choses, pour que dans nos vies, les décisions que nous prenions soient inspirées par lui, pour que les projets que nous formons viennent directement de son cœur et qu'il y ait sa bénédiction. Si le Seigneur nous demande de prier, si le Seigneur nous demande de lire sa parole, c'est pas pour nous embêter, mais c'est pour nous bénir par la suite. C'est parce qu'il y a des promesses, même dans le domaine matériel. Je suis pas en train de prêcher la prospérité, mais il y a une prospérité quand même pour celui et celle qui confie son travail, qui confie ses affaires au Seigneur. Le Seigneur va poser sa main. Ça veut pas dire qu'il va devenir millionnaire obligatoirement. Ça, c'est la prospérité qu'il dit. Mais c'est pas ça que dit la Bible. Dieu nous dit qu'il prendra soin de nous, qui nous donnera ce dont on a besoin, parce que c'est sa parole qui nous le dit. Jésus, il a dit cette parole, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Quelle est la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle? Mais quand on sait les paroles du Seigneur Jésus, quelle est la nourriture du Seigneur, par exemple? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous voyez que là, la parole qui sort de la bouche de Dieu, ce n'est pas la Bible toute seule. C'est la Bible avec laquelle le Saint-Esprit saisit les mots qui sont employés pour nous les faire assimiler, pour nous nourrir, qui donne une dimension de vie à cette parole. Parce que si on la lit de manière mécanique ou de manière un petit peu intellectuelle, ça va rien nous apporter. Mais si le Saint-Esprit vient se saisir de ce moment pour nous communiquer la vie, alors il va y avoir quelque chose qui se passe. Combien de fois on travaille plus pour ceux qui nourrissent? Bien sûr qu'il faut travailler pour ceux qui nourrissent de manière humaine, la nourriture qui périt. Bien sûr qu'il faut travailler, prendre du temps. Mais c'est important aussi de prendre du temps pour ceux cette nourriture qui subsiste éternellement. C'est une parole à laquelle il faut prêter attention avec force. C'est une parole aussi qui agit en profondeur, qui est pénétrante. Quand ils ont été attentifs, quand ils ont écouté avec cette manière-là, alors la parole, elle agit encore plus efficacement que ce que Esdras et les Lévites, ils avaient prévu qu'elle agisse. Ils ont été même surpris. Ils ont été même un petit peu décontenancés quand ils ont vu que le peuple s'est mis à pleurer. Tout le peuple s'est mis à pleurer. Pourquoi est-ce qu'ils ont pleuré? Mais parce que tout simplement, ils découvraient ou ils redécouvraient des choses qu'ils avaient totalement oubliées. Ils se rendaient compte qu'il y avait des choses dans leur vie qui correspondaient pas du tout avec ce que la loi leur demandait de faire. Il y avait la sainteté évidente de la loi qui tranchait avec leur imperfection, avec leur souillure, la parfaite justice des exigences du Seigneur qui tranchait avec leur désobéissance. Et même, ils se sont aperçus combien de fois Dieu les avait prévenus de tous les malheurs qui allaient leur arriver s'ils désobéissaient. Et le résultat, ils ont quand même désobéi. Alors ça, c'était leur père, hein. C'était pas eux-mêmes. Mais ils sont aperçus que la déportation en Babylone et tout cela, c'était annoncé par le Seigneur dans le Deutéronome, vous le lisez. Si vous obéissez, vous serez bénis. Je résume. Si vous désobéissez, vous serez enlevé de votre pays, vous serez amené dans une nation étrangère, et là-bas, vous crierez à moi, et je vous ramènerai dans votre pays. Tout était dit en avance. Ils se sont aperçus que Dieu avait été fidèle depuis le début. Il les avait prévenus, mais c'est eux, leurs parents et eux-mêmes, qui avaient persévérer dans leur voie mauvaise. Alors, face à cela, quelque chose s'est passé dans leur cœur. Face à la parole qui est venue révéler, qui est venue montrer comme un miroir, tel qu'ils étaient avec leurs souillures et leurs péchés, il y a eu une tristesse, il y a eu des pleurs qui se sont communiqués à leur esprit. Ça peut paraître décevant quand on voit des gens qui sortent d'une prédication en pleurs, qui sortent tristes, qu'on voit qu'ils ont le visage décomposé, et quand on les revoit, ils sont continuellement dans cet état d'esprit-là, toujours les traits tirés, toujours on sent la douleur dans leurs yeux quand on les voit. Mais ça aurait être pu pire s'ils avaient écouté avec indifférence. S'ils avaient rejeté en disant ça, on s'en fiche, on n'en veut pas de cette parole. Ou s'ils s'étaient moqués d'elle avec incrédulité. Mais là, ça a touché leur cœur. Et vous savez, quand on laisse la parole du Seigneur rentrer dans notre cœur, alors ça produit des émotions. Et peut-être la question que je vais vous poser, c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré face à une parole que vous avez lue dans la Bible? C'est quand la dernière fois que vos yeux ont lu ou que vos oreilles ont entendu la voix de Dieu vous parler directement et que votre cœur a été rempli de tristesse parce que vous êtes aperçu que depuis le début, le Seigneur, il avait raison de toute façon et que vous êtes aperçu de vos erreurs? C'est quand la dernière fois? Répondons chacun pour notre part. Mais répondons vraiment. Souvent, on est dans une espèce de marasme spirituel. On dit, ouais, les choses, ça va aller. Mais des fois, il faut être vrai et sincère et honnête avec le Seigneur et lui dire, Seigneur, c'est vrai. Ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas été touché par ta parole. Ça fait peut-être 20 ans que ta parole m'a pas vraiment parlé avec profondeur et qu'il n'y a pas eu un effet dans mon cœur. Seigneur, je veux que tu me parles comme ça aujourd'hui. Est-ce que c'est possible que le Seigneur vous parle de cette manière aujourd'hui? Ou est-ce que c'était pour les temps d'avant, au moment de Néhémie, ça marchait, au moment de Jésus, ça marchait? Non, ça marche tout le temps. Ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de notre état d'esprit. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui où on est insensibilisé. Quand on entend un petit enfant qui pleure, ça nous touche et on est captivé, c'est normal. Mais quand on regarde la télévision et qu'on voit de la violence, qu'on voit toutes sortes de mauvaises choses qui se passent, et même si les informations, leur but, c'est pas de décourager les gens, c'est quand même le message qui passe finalement. On est dans un monde qui continuellement nous décourage ou alors nous propose, pour oublier le découragement, toutes sortes de choses mauvaises, toutes sortes de mauvaises pensées, toutes sortes de pensées de souillures qui sont là présentées par la télévision. Et il y a une espèce d'insensibilité qui saisit notre conscience. Et on peut passer notre vie en passant à côté de la parole de Dieu parce qu'on est insensibilisé. Vous savez, quand le docteur veut faire une piqûre à un petit enfant, il prépare un petit peu, des fois il met un petit produit qui endort, qui permet que ça fasse moins mal. Insensibilisé, c'est ça. Et des fois la parole de Dieu peut nous paraître comme une piqûre, alors ça donne pas envie. Mais la piqûre, c'est quoi le but? Est-ce que c'est de nous faire mal? La piqûre, le but c'est de mettre le vaccin qu'il faut pour pouvoir nous guérir. Et la parole de Dieu, des fois, même si elle a l'aspect d'une piqûre, et même s'il y a cet aspect d'insensibilité, on a besoin de réaliser le but de la parole de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Quand nous lisons les psaumes, le premier mot des psaumes, c'est heureux. Quand nous lisons une des premières prédications de Jésus, c'est heureux. Quand nous lisons un des derniers passages de la Bible, Apocalypse 22, il est dit aussi heureux pour telle et telle personne. Heureux celui qui se sanctifie. Qu'il se sanctifie encore. Et le Seigneur, son but, c'est que nous puissions être vraiment heureux. Pas la joie de ce monde qui est passagère, mais vraiment cette joie qui dure, qui est éternelle et qui ne dépend pas des circonstances. Ça communique la force intérieure. Ça permet d'être vraiment de ceux qui résistent dans les difficultés. Dieu veut que cette parole agisse avec profondeur en nous. Et d'ailleurs, il a dit de manière très claire, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Des fois, avec nous-mêmes, on est un petit peu tendre. où on est capable de pas aller en profondeur, on est capable de s'auto-persuader de certaines choses qui sont pas bonnes finalement. Mais quand c'est la parole de Dieu qui nous parle, là, elle rentre en profondeur. Et l'image qui est là, elle est pas très glorieuse. Disons qu'elle est pas très jolie pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, elle parlait beaucoup parce que c'était le sacrificateur qui venait avec devant lui l'animal qui était mort, offert en sacrifice. Et à un moment donné, avec l'épée qu'il avait, il découpait la chair et il faisait ressortir tout l'intérieur, tout ce qui était sale. Et il enlevait cela pour offrir le sacrifice de bonne odeur. Et des fois, ça, quand la parole de Dieu agit, c'est ça. Elle est obligée de faire mal. Elle est obligée de mettre à découvert ce qui est sale en nous, mais pour que notre vie soit un sacrifice de bonne odeur. Est-ce que nous voulons que notre vie soit ce sacrifice de bonne odeur? Le piège, la difficulté de ce passage, c'est de se dire, ah, quand je lis la Bible, je pleure, ça me touche, il faut que j'arrête, il faut que ça suffit, j'en ai marre d'entendre cette parole qui me fait du mal. Et le piège, ça serait de s'en arrêter là, mais nous savons très bien que celui qui en est à ce stade, il n'a pas continué de regarder assez dans la parole de Dieu pour pouvoir en être émerveillé. Quand on lit le psaume 119, quand on voit combien la vision de l'auteur du psaume 119, elle est totalement opposée, ça nous interpelle. On voit que cet homme, il a compris vraiment le but de la loi, que c'était pas quelque chose pour nous mettre des fardeaux sur les épaules, mais c'est quelque chose pour nous rendre plus légers encore. Dans le verset 18, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». On voit pas quelqu'un qui est en train de pleurer pour lire la Bible. On voit quelqu'un qui est émerveillé et qui veut en apprendre davantage. « Moi, je fais mes délices de ta loi. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. » Tes préceptes sont la joie de mon cœur. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. On voit que c'est quelqu'un qui a compris ce que ça signifie, la parole de Dieu. Et là, encore, il ne parlait que de la loi. Vous imaginez? Quand il est dit dans le Lévitique qu'il faudra offrir un bélier ou un oiseau ou un bœuf, etc., et dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Ça nous dépasse. Il y a des personnes, des enseignants qui sont capables de vous décortiquer le Lévitique verset par verset, de vous montrer la splendeur de l'évangile qui est déjà annoncé au travers de tous ces éléments. C'est incroyable. Je vous invite à lire des livres comme ça sur le Lévitique, comme ça vous avez une autre vision, parce que sinon ça nous paraît un peu compliqué. Mais cet homme, en tout cas, il avait compris. Et Esdras, il était de cela, il était versé dans les Écritures, ça faisait des dizaines d'années, des vingtaines d'années même qu'il étudiait la parole et qu'il a préparé toute chose pour la communiquer à ce peuple. Il a attendu le bon moment qu'il soit attentif. Et puis quand il lise la parole et il explique, les gens se mettent à pleurer. Et c'est là qu'ils leur disent, non, arrêtez. C'est pour ça qu'ils leur ont dit arrêtez. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer. Bien sûr qu'il y a des moments dans nos vies où on est triste et il faut que ça sorte. Mais après, il faut qu'on entende ce conseil qui nous dise, maintenant, arrêtez de pleurer et regardez plus en profondeur. Allez plus loin avec la parole de Dieu et vous allez avoir cette joie qui va vous être communiquée. La joie du Seigneur sera votre force. Et Esdras et ses acolytes, ils connaissaient l'intention de la parole de Dieu. C'était de mieux connaître Dieu. La parole de Dieu, c'est pas nous. La parole de Dieu, c'est Dieu. Comprenez la différence? Souvent, on lit la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Qu'est-ce que je vais comprendre pour moi? Quelle décision je vais pouvoir prendre, etc. Moi. Non. La parole de Dieu, c'est Dieu. Qui est Dieu? Comment Dieu m'aime? Quelle est la grandeur de Dieu? Quelle est la sainteté de Dieu? Comment Dieu mérite d'être servi, etc., etc. Dieu et Dieu. Je veux connaître Dieu davantage. Et c'est ça qui change tout. Parce que ça, quand on essaye de lire la parole de Dieu en cherchant tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit dire, tout ce qu'on ne doit pas faire, tout ce qu'on ne doit pas dire, etc. Mais laissez-moi vous dire que c'est fatigant. On se lasse. Mais quand on a compris que la parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner à chérir cette communion avec Dieu, à nous montrer comment notre Dieu est grand et puissant. Quand on a peur de l'avenir, on lit dans la parole de Dieu, on voit que Dieu tient notre avenir dans ses mains. Quand on se sent seul, Dieu nous promet qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous abandonnera jamais. Quand on n'a plus de force, Dieu, il nous dit qu'il est tout puissant, qu'il est celui qui est avec nous et qui est capable de nous délivrer de n'importe quelle situation. Quand on ne sait pas quoi faire, quelle décision prendre, on a un Dieu qui est déjà au courant de tout, qui maîtrise les temps, les circonstances, qui est capable d'ouvrir des portes et d'en fermer d'autres. C'est lui qui maîtrise tout. Quand on lit la parole de Dieu, notre foi, elle est fortifiée. Et la force intérieure dont on a tant besoin, c'est justement de méditer, de chérir et de laisser cette parole nous enseigner la personne de notre Dieu. C'est là que la joie du Seigneur sera notre force. La joie du Seigneur. Je termine avec cette pensée. Qu'est-ce qui rend le cœur joyeux? Alors, je précise, parce que là, beaucoup de choses peuvent être données. Qu'est-ce qui rend le cœur de Dieu joyeux? Parce que c'est la joie du Seigneur. C'est pas n'importe quelle joie. C'est pas la joie d'avoir gagné au loto. Ça marche pas, ça. C'est la joie du Seigneur qui sera votre force. C'est pas notre propre joie, notre auto-suggestion de joie. Ça marche pas non plus. Qu'est-ce qui rend le cœur du Seigneur joyeux? Ça, c'est la bonne question. Parce que c'est ça qui va nous donner la force. Alors, est-ce qu'il y a des passages dans la Bible qui vous reviennent, qui parlent de la joie qu'il y a dans le ciel, par exemple? Là, je vous ai beaucoup aiguillé. Il y a dans le ciel plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a dans le ciel, et donc on comprend bien que c'est dans le cœur de Dieu et dans le cœur de tous les anges qui sont autour, il y a une joie incomparable quand un pécheur se repent, quand il y a des larmes de repentance, mais qu'il y a aussi la compréhension que Dieu a pardonné mon péché. La repentance, c'est de pleurer sur son péché, comprendre que c'est mal, c'est se détourner de ce péché, c'est aussi réparer les fautes que l'on a commis, si l'on a commis certaines fautes. Et justement, quand on se repent de cette manière, le cœur du Seigneur, il est réjoui. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, nous dit Sophonie. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. À quel moment? Ben, quand il t'aura sauvé. Quand le Seigneur nous sauve, il y a une joie dans son cœur. Quand on laisse le Seigneur faire cette œuvre de restauration et de salut dans notre âme, quand on est dans une situation difficile et quand on voit le Seigneur qui tend sa main pour nous sauver, alors il y a de la joie dans son cœur. Et alors cette joie-là, elle est notre force. Mais forcément, si on est dans la situation difficile et qu'on voit que le Seigneur il agit, ben ça nous fait du bien. Et il y a une force intérieure qui nous saisit. Regardez ce qu'il est dit dans Agée chapitre 1 verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Quand on se met à l'œuvre pour le royaume du Seigneur, alors il y a la joie dans le cœur de Dieu. Et cette joie-là nous est communiquée de manière surnaturelle. Le Seigneur nous donne une joie qui ne peut pas être expliquée, une joie qui ne dépend pas des choses que l'on aura, des raisonnements que l'on aura fait, mais une joie qui vient simplement de notre communion avec Dieu. Regardez les disciples, quand ils venaient d'être frappés, d'être persécutés, on s'est moqué d'eux, on leur demande de renier le nom de Jésus. Et vous savez comment ils sortent de ces moments-là? Tout joyeux. Qui c'est qui voudrait que je fasse la même chose ce matin? Bon. Je voudrais faire un exemple vivant là. Qui c'est qui vient être persécuté, frappé de coups de fouet et qui va ressortir joyeux? C'est pas naturel, hein? Mais la joie du Seigneur était leur force. Pourquoi? Parce que le Seigneur était réjoui de voir qu'il y avait des hommes qui étaient capables de le servir même jusqu'à la mort s'il fallait. Et il savait très bien, certes, Pierre, il a fini de cette manière, Jacques, etc. Ils ont tous plus ou moins fini en étant persécutés jusqu'à la mort. Mais dans leur cœur, il y avait cette joie qui ne dépendait pas des circonstances. Cette joie parce qu'ils étaient en accord avec la parole de Dieu. Ils étaient même des témoins de la parole de Dieu, messagers de cette parole. Ils se contentaient pas de la Bible juste pour eux, mais il a été de ceux qui la portaient autour d'eux. La joie du Seigneur sera notre force. Le peuple d'Israël avait retrouvé l'espoir après avoir reconstruit les murs, mais les fortifications, elles n'étaient pas suffisantes pour faire face à toutes les difficultés de la vie. Et ils savaient que la forteresse la plus sûre dont ils avaient besoin, c'était la communion avec leur Dieu, la joie du Seigneur, la faveur de Dieu, le plaisir que Dieu avait quand il voyait ce peuple qui revenait à lui. Et par la suite, on se rend compte qu'ils ont voulu mettre en application de manière très précise la parole de Dieu. Ce matin, on n'a pas le temps de voir ces choses-là, mais c'est vrai que c'est important. Quand le Seigneur touche notre cœur, quand on pleure sur la réalité qu'on est à côté de la plaque par rapport à la parole de Dieu, et quand on se repent, et quand il y a une joie toute nouvelle et fraîche qui est mise dans notre cœur, alors le Seigneur nous encourage aussi à être de ceux qui mettent en pratique. Est-ce que nous pouvons faire cette prière ce matin? Seigneur, que ta joie soit ma force. Seigneur, que la joie de l'Éternel soit ma force. Que ça soit pas ma joie, ma tentative de me convaincre qu'il faut que je sois dans la joie. Non, la joie du Seigneur. Ce qui se passe dans le ciel, que ça ait une répercussion dans mon cœur ce matin, parce que je place au centre la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni.